cours de ces quelques jours, on puisse déployer tous leurs équipements.
Soyez les bienvenus sur leur fournir sur tout ce qui est
en train de se passer.
Recul immédiat, l'émission qui prend de la distance sur l'actualité et l'information. Avec Mehdi et Julien. Sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Recul immédiat, l'émission consacrée au traitement de l'information sur Marmite FM 88.4. L'idée est de donner quelques pistes de lecture des médias pour mieux comprendre leur fonctionnement et réfléchir à nos propres pratiques d'information. Et pour nous guider dans nos réflexions critiques, comme d'habitude, Mehdi Litim est avec moi, le fondateur du Trapiblog, qu'on entend aussi régulièrement sur notre antenne pour parler d'économie notamment. Bonjour Mehdi.
Bonjour Julien.
Et aujourd'hui avec toi Mehdi, nous allons parler du complotisme parce qu'on en a affaire quotidiennement, notamment sur les réseaux sociaux. Complotisme, c'est un terme qui peut recouvrir beaucoup de croyances très différentes, tantôt inoffensives, tantôt dangereuses, et ça touche tout le monde à des degrés divers. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs, hein, ça ne date pas d'Internet. Je vais vous donner la définition que fait le Larousse du terme complotiste. Se dit de quelqu'un qui récuse la version communément admise d'un événement et cherche à démontrer que celui-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active. Alors Mehdi, après avoir entendu ça, déjà tout d'abord, pourquoi on complote? Qu'est-ce qui pousse à s'intéresser à des thèses complotistes? Ça sert à quoi en gros?
Alors comme tu le disais tout à l'heure, les complots, les théories complotistes, en fait ça date pas d'aujourd'hui.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent derrière une théorie complotiste, il y a un refus de l'information officielle.
Mmh.
Alors, quand il y a un refus de l'information officielle, c'est parce qu'on considère que le système médiatique, et plus largement le système politique et l'organisation de notre société, correspond pas à ce que nous, on veut.
Ouais.
On retrouve beaucoup de théories complotistes qui émergent et qui sont largement diffusées pendant les périodes de crise sociale.
Oui.
On prend régulièrement l'exemple en fait de ce qui se passait au moment des gilets jaunes, où on a vu beaucoup de théories un peu complotistes échangées sur les réseaux sociaux entre les gens qui participaient et qui avaient besoin en fait d'un récit alternatif,
ouais,
au récit officiel. Plus le récit officiel est officiel, c'est-à-dire que les médias relaient une information quasiment directement. Alors c'est le cas absolument dans les dictatures,
oui,
mais après en France on sait qu'on a un système médiatique qui est quand même en partie contrôlé par des industriels qui peuvent être plus ou moins proches du pouvoir. Et à côté de ça,
et c'est cette proximité justement qui crée le doute chez certains.
Oui, parce qu'en fait, il va pas y avoir l'esprit critique qui va y avoir au moment des crises parmi les participants en fait à des manifestations ou à des événements.
Ouais.
Si on les retrouve pas dans les médias, on a l'impression que le média il va faire passer plus l'information officielle que les questionnements que moi je me pose. Et par ailleurs, on a aussi en France un système médiatique qui est relativement fermé d'un point de vue sociologique,
mmh,
puisque la plupart des journalistes sont issus, plus ou moins, pas tous évidemment, mais de manière dominante, d'un même milieu social, et ils ont fait à peu près tous, ou en tout cas il y en a beaucoup qui ont fait à peu près les mêmes études. Et donc du coup, il n'y a pas de sensibilité nécessairement par rapport aux questions qui sont liées aux banlieues, parce qu'on sait que dans les quartiers populaires, on va avoir beaucoup de théories complotistes. Et quand il va y avoir des événements comme les gilets jaunes, on va avoir cette tendance dans certains milieux plus privilégiés qui sont les milieux des journalistes d'origine ou de vie actuelle. On va pas avoir en fait cette sensibilité en fait au questionnement. Donc on va dire c'est des va-nu-pieds, c'est, ouais, des croquants, ça nous rappelle ce qu'on lit dans les bouquins d'histoire,
ouais,
sur les révoltes fiscales et tout ça. Bon. Mmh. Et donc du coup, quand on est dans cette situation-là, la théorie complotiste sert à créer un récit alternatif au récit communément divulgué en fait par la presse ou par les médias traditionnels.
Elles servent les intérêts de qui, ces thèses complotistes?
En général, elles vont servir les intérêts des groupes qui vont les recevoir. C'est-à-dire que si je suis gilet jaune, si je suis jeune des banlieues au moment des émeutes,
mmh,
j'ai besoin d'avoir un récit qui correspond à mon ressenti. Ces récits-là, en fait, ils peuvent être multiples. Il y a plusieurs récits qui peuvent donner du sens à ce que je vis à un moment donné. Et c'est là qu'en fait, il va y avoir des producteurs de récits qui eux-mêmes en fait vont essayer de tirer parti de leur de la situation et qui vont créer une histoire qui n'est en général pas du tout journalistique, c'est-à-dire qu'il y a aucune source sur les informations qui sont données, on vérifie pas ce qu'on raconte, etc. Ouais. Donc on est vraiment dans du récit, dans de l'invention, mais ça peut aller dans mon sens, et notamment quand je vais essayer d'expliquer les causes des problèmes. Si moi, j'ai un ennemi identifié d'un point de vue politique, je vais avoir tendance à dire que mon ennemi politique, en fait, est la cause, en fait, du problème qui est là. Et c'est là qu'il y a toujours, en fait, des gens qui créent des messages, qui sont plus ou moins bien reçus, et qui ont toujours des intérêts. La question qui se pose, c'est selon la nature du message, selon la nature notamment du bouc émissaire que je vais retrouver dans mon message, je vais pouvoir analyser qui est producteur de ce message et quelle est sa stratégie politique ou sociale.
Donc en gros, il faut se demander qui est la victime, en fait. Pour comprendre qui est le bourreau.
Oui, en fait, il faut toujours... Voilà, on peut analyser à qui sert le crime en sachant qui est le bouc émissaire de cette théorie un peu complotiste.
Et donc, ces théories sont séduisantes parce que souvent, elles sont liées à des phénomènes méconnus ou en tout cas un savoir un peu flou qui va faire douter. Et quand il y a du doute face à une situation de crise, comme tu l'as dit, il y a deux approches, une qui est scientifique et l'autre qui ne l'est pas.
Alors, le boulot du journaliste, alors que ce soit un journaliste politique, mais prenons un exemple un peu moins sensible qui va être le journaliste sportif, parce que ça fait moins de débats, ça crée moins de tension. Il y a deux types de journalisme, quoi, d'information sportive. Il va y avoir d'une part, en fait, un professionnel du journalisme qui travaille avec les joueurs, qui travaille avec les clubs au quotidien depuis 20 ans, 30 ans, qui va apporter une information qui, en général, sera sourcée, même si on ne nous donne pas la source. Mais ça va être une parole d'un directeur sportif, d'un joueur de foot, d'un entraîneur, parce que j'ai accès en fait à ces sources d'informations-là. Ou alors ça va être une analyse basée sur des faits historiques que je connais, parce que je sais qu'au Real de Madrid on travaille de telle manière, alors qu'au PSG on travaille d'une autre manière. Et puis à côté de ça, il va y avoir une forme de concurrence en termes non pas d'information, puisqu'il n'y a pas de source et il n'y a pas de vérification de l'information, mais en termes de message. Et là, moi, je vais pouvoir me dire, tiens, je vais me faire un peu mousser, puis je vais expliquer des trucs sur Mbappé, etc. Mais là, je peux créer un message qui semble professionnel sans être capable de donner des sources. Et sans être capable non plus, parce que j'ai pas un réseau, de vérifier que l'information qu'une personne, qu'une source m'a donnée est bien confirmée par une autre source indépendante. Et là, du coup, j'ai la différence entre une invention qui peut être séduisante parce que ça semble vrai, et un travail journalistique à partir d'une source vérifiée.
Puis on parle de doute depuis tout à l'heure, parce que c'est un peu le point de départ, mais il y a une différence entre le scepticisme et la négation, en fait, la réfutation d'une information. Et là, on est plus dans le complot.
Oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le travail du journaliste, en fait, par exemple du journaliste sportif, quand on parle de Mbappé, de son transfert, c'est que le journaliste football, il va pas se dire, de toute façon, l'information, c'est que Mbappé ira au Real de Madrid. Il en sait rien, il va enquêter. Et ensuite, par rapport aux informations qui sont données, en fait, il va donner le résultat de cette info. Le complotiste, lui, on a beau lui dire tout ce qu'on veut, lui apporter des informations, il va pas les prendre en compte, puisque l'objectif du complot, c'est de montrer que l'ennemi que j'ai dans ma tête, en fait, est l'auteur, en fait, de tous les problèmes.
Pour continuer, Mehdi, ces théories du complot ont un impact direct sur nos vies. Alors d'abord, quel impact ça peut avoir d'un point de vue individuel ?
Alors, en général, on se rend compte que les victimes de ces théories complotistes, donc qui vont à fond, en fait, dans ces théories-là, souvent, c'est parce qu'il y a des vrais besoins profonds de sécurité, d'avoir une approche dogmatique, etc., donc qui rentrent, en fait, dans des mondes un peu sectaires, ont tendance un peu à s'éloigner des autres, et notamment de leurs proches. Ouais. Parce que quand je suis en fait autour d'une table avec des amis ou avec ma famille, souvent en fait il va y avoir des discussions politiques notamment, ou sur des faits de société. Or, si j'ai une approche dogmatique, je peux pas échanger avec les gens. Parce que, en gros, je récuse en fait toute information qui n'irait pas dans le dogme. Alors ça, c'est vrai en matière de théorie complotiste, mais c'est ce qu'on retrouve chez dans toutes les pensées dogmatiques, qu'elles soient complotistes ou pas.
Ouais.
Et donc du coup, si j'ai grandi en fait dans un environnement où j'étais habitué en fait en dehors d'un esprit sectaire à discuter, et ben d'un coup en fait, je discute plus. Et donc tous mes proches, mes racines, en fait, je suis obligé de m'en séparer le temps de faire mon petit bonhomme de chemin dans ma tête dans la théorie complotiste.
C'est ça, donc ça brise, en fait, on brise un premier lien de solidarité peut-être avec la famille, avec les amis, et probablement qu'on en retrouve un autre qui n'en est pas un réel, en fait, avec d'autres adeptes des théories complotistes, ou alors sans aller, comme tu disais, jusqu'aux théories complotistes, avec les gens qui ont la même idéologie, en fait.
Alors, ceux qui vont très très loin là-dedans, on a ça dans des phénomènes sectaires divers, hein. L'église de Scientologie, etc., qui sont pas nécessairement complotistes, hein, qui peuvent l'être, mais c'est pas leur nature de l'être. En fait, ça crée, en fait, une forme d'apaisement psychologique. Parce qu'on est dans le vrai, on est dans le certain, on se prend plus la tête, on se pose plus de questions.
Ouais.
Or, la discussion, même avec des amis, elle a tendance, quand même, toute discussion à cet effet-là, de remettre en question ce que je pense. Et si moi, je suis pas dans un état psychologique suffisamment fort pour accepter des remises en question de ce qu'on pense. Et puis, c'est vrai pour nous tous, hein. Il y a un moment, en fait, on veut bien aller dans la discussion, mais il y a un moment, il y a des choses qui sont non négociables.
Ça
dépend de nos identités.
Ouais.
Chez le dogmatique, en fait, ce qui est non négociable vient très, très, très vite. Et donc, du coup, on peut plus discuter. Et donc, du coup, on peut plus échanger. Et cette solidarité du quotidien qu'on a avec sa famille ou avec ses proches, parce que on a un soutien psychologique qu'on va retrouver par ailleurs dans le dogme, ou dans l'entreprise sectaire, des soutiens financiers, je te prête ceci, tu me prêtes cela, j'ai un problème avec mon électricité, toi t'es électricien, tu viens me filer un coup de main, ça on va plus l'avoir.
Ouais.
Donc on aura un rapport qui va être souvent dans les dogmes actuels, dans les théories complotistes, souvent autour de relations Internet, quoi. Et ça, au bout d'un moment, au quotidien, ça suffit pas pour un être humain.
Donc l'isolement du point de vue individuel. D'un point de vue collectif, on va parler plutôt d'individualisation. Et ça, du coup, ça joue sur la démocratie, finalement.
Ce dont on s'est rendu compte, alors que ce soit en France ou dans plein d'autres pays, donc on pense... à la Grande-Bretagne au moment du Brexit ou de l'Angleterre, Écosse, Pays de Galles, où il y avait ces débats-là au moment du Brexit. On pense à ce qui s'est passé au moment de la campagne électorale aux États-Unis entre Trump et Clinton, ce qui s'est passé en France aussi, parce qu'on avait eu des retours d'Emmanuel Macron là-dessus après les élections. Il y a des attaques, en fait, de fausses informations bien organisées, bien manipulées. Là, en l'occurrence, c'était par la Russie de Poutine.
Ouais.
Ça c'est documenté. On peut pas penser qu'il y ait que Poutine qui fasse ça. Donc, on sait que tous les États qui sont en guerre les uns contre les autres vont avoir tendance à manipuler l'information. Si ça arrive, en fait, au moment d'une élection, il peut y avoir des mouvements, en fait, de retournement de l'opinion populaire, et avec des effets sur le résultat des élections, parce qu'on sait que les élections se gagnent à quelques pourcents, hein, c'est pas à 20% d'écart. Donc du coup, ça peut jouer. Les terroristes avaient utilisé, en fait, cette stratégie-là avant des élections en Espagne, je crois que c'était en 2004, quand ils ont fait exploser une bombe dans des trains espagnols
à Madrid.
Et ça a eu un impact, en fait, sur le résultat des élections. Donc on pense quand même que ces stratégies, en fait, de création de fausses informations, de partage de fausses informations, ont eu un impact sur le vote du Brexit. Ça a eu un impact sur la victoire de Trump, on ne sait pas dans quelle mesure. Ça n'en a pas eu encore aujourd'hui en France. Mais je sais que, quoi, on sait tous que les services de renseignement font très très attention à ça au moment des élections.
Donc chacun se fabrique dans son coin sa propre réalité alternative. Forcément, ça a des conséquences sur notre capacité à vivre en démocratie, sur le dialogue en tout cas. Alors comment on peut faire, Mehdi, à titre individuel et à titre collectif aussi, pour garder du recul vis-à-vis des thèses complotistes ? Comment on peut s'en prémunir ?
Alors déjà, donc on peut tous être victimes, hein, et on l'est plus ou moins de ces théories-là, puisqu'on se rend compte 10 ans après qu'on croyait en des choses qui se sont révélées fausses. Il faut toujours regarder, en fait, quelle est la source d'une information. C'est-à-dire, je récupère une information... qui me semblent intéressantes, hyper spectaculaires. Il faut que je vois si c'est des professionnels en fait de l'information qui l'ont créé. Mmh. Et je vais peut-être voir aussi si j'arrive à trouver moi-même d'autres sources d'information qui vont dans le sens de cette première source d'information.
Donc, confronter les sources.
C'est ça. Et bien avoir une idée réelle de quelle est cette source-là. Est-ce que je la connais? Est-ce que je lui fais confiance?
Ouais. Et comment on fait quand on a un ami, un proche qui est vraiment convaincu des thèses complotistes?
Je pense que l'idée, c'est de pas se mettre dans la position de « moi j'ai raison, toi t'as tort ». Parce qu'en fait, on n'est jamais sûr d'avoir totalement raison et que la personne en face a totalement tort. Par contre, si on est sur la méthode de « quelle est ta source ?» Qui t'a dit ça? D'où ça vient? Là, quelque part, si la source est pourrie, on instille un peu un doute dans.
Ouais, c'est ça.
On affaiblit, en fait.
Faut jouer sur les failles et les incohérences.
Oui, en fait, faille ou incohérence, en tout cas, je pense pas qu'il faille dire là tu es dans la faille, là tu es dans l'incohérence, parce que la personne se replie, mais plutôt d'où tu as appris ça, et la personne va faire cette réflexion ensuite par elle-même, ça va tourner dans son cerveau, ça peut affaiblir l'aspect dogmatique, de la même manière que nous, on doit se dire tout le temps la même chose quand on a affaire à une information, ouais. Quelle est cette source-là, et est-ce que je suis bien sûr de ce que je crois?
Et d'un point de vue collectif, alors?
Là, je pense que ce qu'il faut, c'est plus de formation. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On en parle. Ouais. On ne dit pas qu'on a la vérité, que tout ce qu'on dit est très intelligent, mais quelque part, on en parle. Mmh. Donc l'idée, c'est dès le plus jeune âge d'en parler avec les enfants, en leur expliquant ce que c'est qu'une information, et puis d'avoir un œil critique sur tous les éléments. Critique, ça ne veut pas dire destructeur, mais on a parlé de la nature des médias tout à l'heure. Qui sont les journalistes? Est-ce qu'ils représentent l'ensemble de la population, etc. Il faut qu'on ait des débats sur la création de l'information beaucoup plus large et qu'on accepte aussi le point de vue critique de ceux qui refusent en fait le système tel qu'il est, qui ont tendance à aller dans des théories complotistes, mais qui, derrière ces théories complotistes, veulent faire passer un message en fait critique. Mmh. Et celui-là, il faut qu'on l'entende tous.
Un petit mot peut-être, Mehdi, avant de conclure sur le rôle que jouent les algorithmes sur notre façon de nous informer.
Alors, il faut avoir conscience qu'on nous propose des informations qu'on aime, a priori.
Ouais.
Hein, les algorithmes vont venir calculer la pertinence d'une information par rapport à l'historique de ce que j'ai déjà regardé. Il faut le savoir. Moi, je pense pas que ce soit un problème. Parce que si moi, j'aime bien, je dis n'importe quoi, l'histoire, et que je tombe sur des petites vidéos, des shorts d'histoire, et ben tant mieux pour moi. Mmh. Il faut juste que je me pose toujours la question de est-ce que là je suis pas en train de me faire manipuler par un algorithme, est-ce que je suis pas enfermé dans des vidéos qui finalement plaisent pas, et qu'il faut que j'aille voir autre chose par moi-même.
Et je rappelle qu'on a déjà évoqué le rôle des algorithmes dans nos précédentes émissions. On a parlé du traitement de l'information, pour rappel, à la télévision et sur les réseaux sociaux. On a également parlé du fonctionnement de la presse écrite et son modèle économique. Toutes ces émissions sont d'ailleurs disponibles en podcast sur le site internet de la radio, marmitefm.fr. Merci Mehdi.
Merci Julien.
Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Recul Immédiat. En attendant, passez une bonne journée en compagnie de Marmite FM.
C'était Recul Immédiat sur Marmite FM 88.4.